Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo. Micro Rebelle Hebdo, c'est le magazine de notre web radio, microrebelle.fr. Et ce magazine est également diffusé par nos amis de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France. C'est notamment le cas de Radio PFM 99.9 à Arras et le cas de Radio Plus 104.3 à Douvrin. Radio PFM nous rediffuse le vendredi à 20h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche après-midi à 14h. Quant à Radio Plus, nous sommes rediffusés le mardi à midi. Micro Rebelle Hebdo, c'est la radio des alternatives sociales, politiques, économiques dans le bassin minier et au-delà. Chaque semaine, nous vous présentons notre agenda social et culturel, l'actualité et la revue de presse, ainsi que des reportages dans le bassin minier et au-delà, comme toujours. Sans attendre, je vais tout de suite donner la parole à Aurélie pour notre agenda social et culturel.
On commence l'agenda par un festival itinérant de jazz dans le Pas-de-Calais du 7 novembre au 2 décembre avec plus de 10 concerts organisés dans 8 communes. Aix-Noulette, Béthune, Beuvry, Givenchy-en-Goële, Grenay, Lens, Marles-les-Mines et enfin Mazingarbe. Donc le festival Tout en haut du jazz vous propose un voyage de 4 semaines dans les multiples facettes de cette musique métissée. Toutes les infos auprès de l'association Droit de Cité au 03 21 49 21 21. Jusqu'au 10 novembre, il y aura le festival Conteur en campagne. Donc les foyers ruraux fêtent le bénévolat et la parole. Le programme est à découvrir sur foyersruraux5962.fr. Il y aura par exemple la présence de Catherine Gaillard à la médiathèque de Lillers le jeudi 7 novembre à 20h. Ce sera le spectacle Flora Tristan à partir de 12 ans. Le samedi 2 novembre, il y aura une collecte pour les animaux organisée à Auchelles, au Carrefour Market de la ville. N'hésitez pas à y passer et à y faire un don. Ensuite, on se retrouve le dimanche 3 novembre pour la fresque climat qui sera réalisée à 20h au Bruxelles Café à Arras. Le lundi 4 novembre, entre 18h30 et 20h30, le planning familial du Pas-de-Calais accueillera un membre du collectif Boule au chaud pour échanger avec nous sur les questions de contraception masculine. Vous vous questionnez à ce sujet? Vous voulez en discuter, vous informer? Le collectif Boule au chaud se mobilise pour faire connaître la contraception masculine thermique. Notamment, nous accueillerons donc Erwan qui viendra échanger avec nous à ce sujet. Voici un lien vers leur site, n'hésitez pas à diffuser l'info à un maximum de personnes. http://boulechaud.free.fr. Nous vous attendons nombreux et nombreuses le lundi 4 novembre entre 18h30 et 20h30 pour discuter de la contraception masculine. On se retrouve au planning familial 62 au 45 rue François Gauthier à Lens. Le samedi 9 novembre aura lieu une soirée alimentation et bien-être à l'initiative de l'AMAP du bassin minier. Donc l'AMAP, c'est l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne et ce 9 novembre, il y aura une conférence et des échanges sur le thème du pain, des céréales et du gluten. Une auberge espagnole clôturera la soirée de manière conviviale. Ça se passera au lag, toujours au 23 avenue Jean Jaurès à 19h. On vous y attend nombreux. jusqu'au 9 novembre, Bernadette Grusson, avec laquelle Micro Rebelle a eu récemment un échange, présente Miroir, une installation sonore qui invite à réfléchir au travers d'œuvres d'art aux assignations qui nous conditionnent. 11 coiffeuses et leur miroir offrent un face-à-face singulier avec 11 œuvres que le public est amené à envisager au regard de son propre reflet. Alors, asseyez-vous confortablement face au miroir, mettez le casque sur vos oreilles, appuyez sur le bouton et venez découvrir ce qui se cache derrière votre reflet. Ça se passera à Méricourt, à l'espace culturel de la gare, à l'écoquartier du 4-5 Sud, rue de la gare. L'exposition sera visible aux heures d'ouverture de l'espace culturel La Gare et c'est gratuit sur réservation. Donc les informations et la réservation sont au 03 91 83 14 85. N'hésitez pas à y faire un tour. Enfin, on clôture cet agenda avec le lundi 11 novembre. Il aura lieu un goûter alimentaire au lag à 16h30 avec projection de films suivie d'un échange fort bien intéressant. On vous y attend nombreux. Et c'est la fin de cet agenda. On se retrouve la semaine prochaine.
Place maintenant à l'actualité et à la revue de presse. Alors dans l'actualité cette semaine, on revient une fois de plus sur la lutte des cheminots. La lutte ou plutôt les luttes. En effet, après les polémiques autour du droit de retrait, ce sont deux actions qui ont été menées cette semaine. Tout d'abord la grève au Technicentre de Châtillon, et puis la grève dans les TER en région PACA. Bref, la colère des cheminots est très vive. Le point de départ de cette colère, on s'en souvient, c'est l'accident du TER dans les Ardennes, qui remet sur le devant de la scène une ancienne revendication, pas de train sans contrôleur. Une revendication que n'entendent pas les dirigeants de la SNCF, pour qui la présence d'un contrôleur ne change rien en matière de sécurité. On touche ainsi du doigt le cœur de l'opposition entre les cheminots-cheminotes et la direction, l'argent, les économies, la course au rendement et au profit. Une opposition que l'on retrouve copier-coller dans le domaine de la santé, de l'éducation, dans les hôpitaux, les maisons de soins, les EHPAD, les universités, etc. D'une manière plus générale, cette opposition sur les questions financières entre les cheminots et leur direction nous invite à regarder du côté de General Electric à Belfort, qui licencie 500 travailleurs et travailleuses, ou encore du côté de Michelin, qui liquide son usine de La Roche-sur-Yon, ou encore et toujours du côté de Lubrizol, où la course à la rentabilité ne s'embarrasse ni de l'environnement, ni des populations avoisinantes. Ou enfin du côté du rapprochement entre PSA et Fiat Chrysler, dont on peut douter qu'il profite aux salariés. Au final, en France, c'est la précarité qui se développe, les petits boulots sans intérêt, les boulots épuisants ou stressants, les boulots où on nous demande toujours plus, toujours plus vite. La course au profit n'a pas de limite. Les dirigeants d'entreprise, publics ou privés, les actionnaires, les banquiers ne peuvent limiter cette course. Ils ne le peuvent pas parce que leur système les jette les uns contre les autres dans une concurrence effrénée. Celui qui s'arrête, qui modère son appétit, se fait distancer, se fait absorber ou se fait liquider. C'est sans doute le sens du rapprochement entre PSA et Fiat Chrysler que nous venons d'évoquer. En ce sens, la mobilisation des cheminots-cheminotes, des pompiers, des urgentistes, etc., n'est qu'une juste et légitime réaction qui mérite tout notre soutien. Dans l'actualité cette semaine, il y a bien sûr cet attentat à Bayonne contre la mosquée par un ancien candidat du FN, admirateur d'Éric Zemmour et assumant ouvertement des positions racistes. Passons rapidement sur le traitement médiatique de cette affaire en évoquant malgré tout le plateau proposé par BFM TV où le débat a progressivement mais inéluctablement dérivé vers le communautarisme musulman, la laïcité et la lutte contre la radicalisation. Une dérive parfaitement indécente, alors que, il faut le rappeler sans ambiguïté, à Bayonne, des personnes ont été visées parce qu'elles sont de confession musulmane. On ne peut évidemment pas s'empêcher de resituer cette attaque islamophobe dans le contexte actuel en France, avec, il y a 3 semaines, l'agression verbale d'une femme en sortie scolaire, sommée de retirer son voile, Aurélie en reparlera tout à l'heure dans sa chronique, puis avec l'obtention d'une émission quotidienne sur CNews par l'abject Éric Zemmour, malgré sa condamnation pour haine raciale, et enfin avec le vote par le Sénat d'une proposition de loi pour l'interdiction du voile dans les sorties scolaires. Bref, le climat islamophobe est bien là et il est pesant. Il est grand temps de construire une riposte à la hauteur de ce climat islamophobe, ne serait-ce que pour éradiquer ce poison raciste et bien entendu pour empêcher qu'on nous divise à un moment où il semble qu'un regain de combativité peut amener à nous redonner confiance et converger vers un mouvement de plus large ampleur. Revue de presse maintenant, avec cet article dans La Voix du Nord. Le titre « Service national universel, pour les volontaires, c'est les copains d'abord ». Et le sous-titre de La Voix du Nord, le chapeau de La Voix du Nord plutôt, « Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, le service national universel, SNU, est entré dans sa deuxième phase, celle qui voit les jeunes volontaires arriver dans des associations ou des collectivités pour 15 jours, notamment dans le Nord, où il est expérimenté. L'occasion d'un premier bilan avant sa généralisation en 2020. Le journal évoque le contexte. Le SNU, le Service National Universel, a été lancé dans 13 départements en juin 2019. Il concerne 2000 jeunes volontaires pour cette expérimentation. Le SNU se déroule en deux phases. Une phase de cohésion de 15 jours en internat dans un département différent de celui dont est originaire le jeune volontaire et une phase de 15 jours d'engagement dans une association ou une collectivité. La suite de l'article évoque une tonalité largement positive à l'égard du SNU. Exemple. À 15 ou 16 ans, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils quittent la région sans les parents, pendant 15 jours. Au programme, un cadre. Différent, mais un cadre tout de même. Réveil à 6 heures, lever du drapeau, marseillaise, uniforme, sport et activités diverses, dont des conférences sur les qualités sur l'égalité filles-garçons, l'homosexualité dans le sport. Mais ce que veulent d'abord retenir ces jeunes volontaires, ce sont les copains venus de toute la France qu'ils se sont faits à ce moment-là, comme le dit Tiffany. Depuis, on s'est fait un groupe sur Snapchat et on continue à se parler, sourit l'ado, qui assure tout de même que cette phase de cohésion l'a changé. Ça m'a ouverte. Je suis plus à l'écoute des conseils des gens, des adultes, et puis je ne connaissais pas la Marseillaise, indique Tiffany qui se décrit volontiers comme un peu rebelle, etc., etc. L'ensemble de l'article est de cette veine. On peut se permettre, évidemment, d'émettre un autre son de cloche ou de clairon, ne serait-ce que parce que l'opinion des 2000 volontaires qui viennent de s'engager ne sera vraisemblablement pas partagée par les 800 000 jeunes à qui ce sera imposé chaque année. Plusieurs associations de jeunesse ou syndicats émettent de gros doutes sur ce qu'ils qualifient d'opération de soumission de la jeunesse et de remise en cause des droits des travailleuses et travailleurs remplacés par ces jeunes sans droit, sans parler des dépenses considérables qui ne vont pas à l'éducation et qui renforcent la militarisation de la société. C'est l'occasion d'évoquer le beau dossier paru dans la revue Silence de ce mois de novembre 2019, un dossier intitulé « Service national universel, boycott et objection de conscience ». En clair, l'État veut forcer les jeunes à s'engager, mais est-ce qu'il et elle ne s'engagent pas déjà ? Si, il et elle s'engagent contre le racisme, contre la destruction de l'environnement, pour le droit à étudier, pour le droit au logement, pour une autre répartition des richesses, pour l'égalité des droits, contre les discriminations, etc. Le dossier de Silence, très complet, aborde les alternatives au SNU avec toute une série de propositions, par exemple de la part du MAN, le Mouvement pour une alternative non violente. Silence donne également la parole à Mathieu, adhérent de Micro-Rebelles et militant de l'Union nationale lycéenne, l'UNL. Mathieu évoque par exemple le fait que le personnel encadrant les jeunes est constitué de personnes n'étant en aucun cas formées sur les thématiques liées aux discriminations et au harcèlement. Ce SNU, je cite Mathieu, sera par conséquent un outil de reproduction de ces comportements. Enfin, Silence donne la parole aux organisations qui entendent organiser l'objection de conscience au SNU et qui appellent les associations à boycotter ce dispositif. C'est donc à retrouver dans Silence de ce mois de novembre, à se procurer dans toutes les bonnes librairies ou par exemple dans l'espace presse autogéré du LAG. Je vous propose de terminer, tout au moins pour ce qui me concerne, cette rubrique actualité et revue de presse par un communiqué d'associations et de particuliers du Pas-de-Calais et de la région contre le projet Tropicalia. De quoi s'agit-il ? C'est ni plus ni moins un projet de construction de la plus grande serre tropicale du monde, selon ses promoteurs, construction prévue sur la côte d'Opale. Citons le communiqué de la holding Opale Tropical Concept sur son site internet. Tropicalia offrira à ses visiteurs une expérience immersive dans un environnement d'envergure unique. 20 000 m² au sein de la plus grande serre tropicale du monde, érigée sur la côte d'Opale et maintenue à une température ventilée de 26-28 degrés toute l'année. Un monde animal et végétal en parfait équilibre pour le plaisir des sens, une porte ouverte vers la compréhension et le respect d'un écosystème unique. Fin de citation. Alors les habitantes et habitants, les associations se mobilisent. Je vous lis leur communiqué. Une immense serre tropicale dans le nord de la France, un non-sens absolu. Cet énorme projet touristique n'a d'autre but que la recherche de profit. La prétention de vouloir protéger des espèces en voie de disparition dans les régions tropicales ne saurait faire illusion. Protégeons déjà la biodiversité là où nous vivons. Ce projet, c'est la disparition de plus de 9 hectares de terres agricoles. L'artificialisation des terres agricoles est l'une des causes principales de la perte de notre biodiversité. Inutile d'en rajouter pour le profit de quelques-uns. Ce projet, c'est encore l'accroissement d'un trafic routier local déjà bien surchargé en région de la proximité immédiate des plages de la côte d'Opale. C'est 500 000 visiteurs prévus chaque année, un parking de 630 places et un balai incessant de camions pour la maintenance de l'ensemble. Ce projet, c'est un immense dôme de 20 000 m² pouvant avoir un impact lumineux matin et soir en saison hivernale et qui entraînera une inévitable pollution visuelle, même s'il est partiellement enterré. L'étude d'impact de ce projet est d'ailleurs globalement très lacunaire, de l'aveu même de l'autorité environnementale des Hauts-de-France et dans une région à forts enjeux environnementaux, zone Natura 2000, ZNIEF. Ce projet, c'est l'extraction de leur milieu naturel d'animaux et de végétaux, avec le risque d'une future et délétère dispersion d'espèces exotiques dans nos milieux, protégés ou non. Le maintien en captivité d'oiseaux, de papillons, de reptiles, de poissons est-il en phase avec la préoccupation de plus en plus marquée et légitime de notre population envers le respect des animaux ? Pour ces raisons, d'ailleurs non exhaustives, nous dénonçons ce projet inutile, nuisible et imposé. La prometteuse innovation technique dite Terraotherme, récupération et stockage de la chaleur produite par la serre, pourra sans nul doute trouver ailleurs une application plus respectueuse du vivant. La promesse de 50 emplois pérennes ne saurait être un argument valable, les 54,2 millions prévus pour cet investissement pouvant l'être sans difficulté de manière bien plus rentable en termes d'emploi. Nous regrettons l'absence d'information et de concertation de la population qui fait prospérer la rumeur d'une absence d'opposition à ce projet. Pas davantage ne saurait suffire la consultation publique portant sur le seul permis de construire et ne concernant que deux villages, Verton et Renduflier. Nous, associations et particuliers, demandons donc l'abandon pur et simple de ce projet. Fin de citation. Voilà, nous avions commencé notre rubrique en évoquant la soif de profit des actionnaires vis-à-vis des cheminots et des salariés en général. On retrouve avec ce projet Tropicalia la même soif de profit. Eh bien, je transmets mon micro à Aurélie pour sa propre chronique.
La France a beaucoup de problèmes, chers auditeurs, mais elle a surtout un gros problème avec le voile. Quand je dis la France, je parle aussi des Français, bien que je peine à croire réellement qu'il s'agisse là de toute la population française qui s'insurge contre un bout de tissu. Donc chaque année, c'est la même chose, vous le savez aussi bien que moi, ce sujet-là revient toujours sur le tapis. N'y aurait-il pas en fin de compte, dans notre chère France, une islamophobie retentissante ? Donc l'article de Politis paru cette semaine parle de cette même islamophobie cachée sur le terme de laïcité. Donc la laïcité, ce mot si souvent utilisé pour tout et absolument n'importe quoi, vous le savez bien. Vous en avez sans doute entendu parler, parce que bien évidemment la presse n'en loupe jamais une à ce sujet, sujet un peu à polémique. Donc le vendredi 11 octobre, une femme voilée accompagnant une sortie scolaire a été prise à partie par le frontiste Julien Odoul. Donc il a dit, je cite, « Nous sommes dans un bâtiment public, madame a tout le loisir de garder son voile chez elle, dans la rue, mais pas ici. » Pourtant, c'est assez comique, je le vois mal dire ça à une personne juive, ou pour sa kippa, ou à une chrétienne notamment pour le port de la croix. Encore moins à une bonne sœur qui porte son vêtement d'église en public, hein, bien sûr que non, parce que l'opinion publique s'insurgerait, bien sûr. Pourtant, voyez-vous, c'est la même chose. Enfin, qu'est-ce que cela peut faire, si quelqu'un porte le voile, la kippa, la croix, etc. On n'oserait jamais dire que le vêtement d'église des bonnes sœurs est une oppression de la femme, d'ailleurs justement car il s'agit d'un choix strictement personnel. Toutes les chrétiennes ne sont pas bonnes sœurs, comme toutes les musulmanes ne sont pas voilées, il ne faut pas faire de généralité. Et je suis assez mitigée sur le port du voile, d'abord parce que je ne comprends pas l'intérêt d'en faire tout un plat. C'est vrai, si j'aime porter un pull mais que vous n'aimez pas les pulls, allez-vous réellement me forcer à l'enlever ou à ne plus le mettre ? C'est absurde, vous ne trouvez pas ? En France, beaucoup d'amalgames sont faits. On ne remerciera donc pas BFM TV et compagnie pour tout cela. On ajoutera, face au scandale de la note transmise en université de Cergy-Pontoise, dans laquelle, je cite, l'arrêt de l'alcool, de manger du porc, etc., sont signalés comme des signes de radicalisation. C'est quand même assez scandaleux d'en arriver là. La France produit, selon moi, ses propres radicalisés qui n'ont pas, pour la majorité, jamais vu la Syrie et ses pays touchés par le terrorisme. En soi, il n'y a pas besoin, ce n'est que le dégoût du système, de la société qui les pousse à sombrer. Quand est-ce que nous comprendrons enfin que le terrorisme n'est pas une affaire de couleur de peau, de religion et de nom ? À la sonorité étrangère, rappelons bien que la plupart des actes terroristes en France ont été commis par des personnes de nationalité française qui sont nées en France et qui y vivaient.
Reportage réalisé dans le cadre de nos ateliers radiophoniques. Il va être question d'échange concernant l'association Les Chavionnais. Les Chavionnais, on va y parler de chats et d'avions, de la ville d'Avion. C'est un reportage réalisé par Elsa.
Bonjour, aujourd'hui nous nous trouvons à Avion, où nous sommes en présence de Patrician Montuel, vice-président de l'association des Chavionnais. Patrician, pourriez-vous présenter cette association ? Quel est son but ?
Alors notre association vient pour aider les chats errants qui n'ont pas de maître ou n'ont plus, suite à un abandon, et vivent dans les rues. Notre but principal était la stérilisation, au début. Puis après, avec le temps, il s'est avéré qu'on a dû effectuer de plus en plus de soins, car les chats vivant dans les rues sont souvent malades, ont souvent des blessures dues justement aux chats qui ne sont pas stérilisés. Donc ils se battent entre eux, ils se donnent des maladies telles le FIV, le sida du chat. D'où pourquoi il est important de stériliser les chats.
Quels sont les chats pris en charge ?
Alors, les chats pris en charge sont principalement les chats errants sauvages.
Pourquoi stériliser les chats ?
Alors, tout simplement pour éviter la prolifération, car un chat se multiplie très très vite, et surtout pour éviter la misère animale. C'est-à-dire que les chats qui vivent dans les rues, faut pas croire, ils sont pas du tout heureux, quoi, ils sont malades. Donc voilà, c'est pour éviter toute cette misère.
Comment avez-vous connaissance des lieux où se trouvent les chats ?
Souvent, ce sont les gens qui nous appellent pour nous dire qu'il y a des chats errants, qu'il faut venir stériliser, castrer, ou des chats qui sont malades, voilà.
Comment financiez-vous les soins et les stérilisations ?
Alors, notre association ne fonctionne qu'avec nos ventes, des bijoux, des objets qu'on confectionne, etc. Et les dons des gens, principalement.
La ville vous apporte-t-elle un soutien ?
Oui, tout à fait. Nous avons la chance d'être dans la ville d'Avion où Monsieur le maire et ses adjoints ont à cœur d'aider la cause animale. Donc la mairie, depuis cette année, les autres années c'était juste une convention 30 millions d'amis. Cette année, la mairie d'Avion a signé la convention avec 30 millions d'amis et en fait paye au niveau de 50% toutes les stérilisations et castrations que nous faisons. C'est-à-dire que 30 millions d'amis payent la moitié et la mairie d'Avion l'autre moitié. Et une fois par an, la mairie d'Avion nous octroie aussi une subvention. Voilà, donc nous remercions aussi d'être dans une ville qui œuvre pour la cause animale.
Combien vous êtes dans l'association ? Y a-t-il des salariés ?
Alors, l'association, nous sommes deux bénévoles, la présidente et moi-même, la vice-présidente. Nous avons aussi une secrétaire et nous avons quelques bénévoles pour nous aider lors de nos collectes, etc. Non, il n'y a aucun salarié, nous sommes une association, c'est que du bénévolat sur notre temps libre et notre argent personnel.
Comment peut-on vous contacter ?
Alors, on nous contacte principalement sur notre page Facebook en message privé. Quelquefois, certaines personnes ont réussi à avoir notre numéro de téléphone ou on leur donne. Mais voilà, c'est aussi simple que ça.
Quels sont les retours des gens sur votre association ?
Alors, c'est controversé. Il y en a qui seront contents et d'autres moins. Alors, les contents, c'est ceux que nous pouvons aider. Les mécontents sont ceux qui, malheureusement, on a dû dire non parce que nous n'avons pas les fonds ou alors nous n'avons pas pu les aider autant qu'ils voulaient. Donc voilà, ça peut être aussi bien du bon que du mauvais. Mais bien heureusement, les retours sont plus souvent positifs car les gens sont satisfaits que de retours négatifs qui ne font en aucunement avancer l'association et avancer le bien-être de nos boules de poils.
Bonjour mes bébés.
Tiens, je vais chercher les gants. Parce que là, ça fait du monde pour Mimine, tu sais bien. Attends, je vais chercher les gants.
Ah, là, nous sommes devant une chenille des chats.
C'est une chatterie.
Une chatterie. Et Patricia se chamaille avec sa porte. Qu'est-ce que vous faites, Patricia ?
Je vais attraper un chat pour aller l'amener chez le vétérinaire.
Ah bon ? Et pour quelle raison ?
Parce qu'il est malade.
Ah bon ?
Parce qu'elle est malade. Oh, ça va être plus simple que prévu.
Et il y en a combien, s'il vous plaît, dans...
Dans la chatterie ?
Dans la chatterie, oui.
Tout à l'heure, je les ai comptés parce que la chatterie, elle était mal fermée.
5. Fais gaffe à la porte, les gars. Je voulais juste rappeler aussi que nous sommes une association, nous ne faisons pas d'adoption. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas de famille d'accueil, nous n'avons rien. Nous n'avons pas de local non plus. Donc, nous faisons du terrain, c'est-à-dire, nous remettons les chats stérilisés, castrés sur les sur le site où nous les avons trouvés et ils sont nourris par ce que nous appelons des nourrisseurs. S'il n'y en a pas, nous chargeons de venir les nourrir, d'où les collectes que nous faisons tous les mois sont pour nourrir les chats errants. Alors par contre, de temps en temps, quand ce sont des chats errants mais très sociables, Nous contactons d'autres associations qui, eux, elles font les adoptions et nous réussissons à les sortir de la rue. C'est-à-dire que ce soit des chatons ou des chats adultes, dès lors qu'ils sont sociables, nous faisons tout pour les sortir de la rue.
Je l'ai eue, elle avait des poils, c'était pas des poils, c'était de la paille. Pour ça que j'en suis contente, mais...
Je n'oublie pas.
Non, voilà.
T'es fâchée, hein, Mimi? Ah ouais.
Alors elle a pas tout.
Elle a pas toute sa tête.
Ah ouais.
C'est pour ça qu'elle est pas très gentille. Pas toujours.
Donc bon. C'est elle que vous emmenez chez le vétérinaire?
Oui.
Le vétérinaire,
elle mange pas, alors il lui faut des injections pour la requinquer parce que elle maigrit trop vite. Hein?
Oh,
t'as vu? T'as vu comment elle se fait sur moi?
Alors, nous sommes chez Madame Grazilia Pazienza, qui est bénévole de l'association. Bonjour.
Bonjour.
Grazilia, que faites-vous en tant que bénévole?
Je soigne des animaux, on me demande de l'aide, je suis là si c'est possible. Je garde des chats errants qui sont mal en point ou qui vont partir en association pour être adoptés. Ou je fais des collectes, j'aide comme je peux. Oui, je suis nourrisseuse, oui. Pour être nourrisseuse, j'y suis quand même. Il y en a quand même des chats.
Comment avez-vous connu l'association ?
Il y a 2 ans de ça, 2 ans et demi, en faisant mes courses, j'achetais à manger pour mes bêtes et j'ai rencontré monsieur le maire en disant à monsieur le maire que je pensais déjà faire une association ou faire quelque chose parce que ça commençait à augmenter chez moi, j'en avais déjà 7-8. Et monsieur le maire me dit il y a une association qui vient de se créer il n'y a pas longtemps sur Avion, ça s'appelle Chavionnet, vous pouvez les contacter. Et c'est comme ça que c'est venu que j'ai appelé l'association Chavionnet. Et puis voilà quoi, j'en avais 6-7, maintenant j'en ai plus d'une trentaine, c'est grâce au Chavionnet. Et puis voilà, on s'entraide et puis on fait ce qu'on peut.
Que pensez-vous de l'association ?
Alors l'association, moi personnellement j'en suis très contente. Ce que je suis déçue pour l'association, c'est qu'on a un manque de bénévoles et d'aide. On est plus insultés, ou surtout la vice-présidente et la présidente, comme quoi il n'y a pas assez d'aide, mais ils font ce qu'ils peuvent. Déjà, il faut y arriver financièrement. Financièrement, on n'a pas beaucoup de dons. J'espère que ça va aller mieux. Et puis que, non, j'en suis. Moi, personnellement, je suis très contente des Chavionnets.
Celui-là, c'est Patricia. Lui, il avait du fil de barbelé ici.
Sur le cou.
Ici. C'est quelqu'un qui lui a fait, pour s'amuser. C'est ma cousine qui m'a appelé à Méricourt en me demandant de l'aide. Parce que j'avais dit non au début, parce qu'on a beaucoup de choses, beaucoup de bêtes, quoi. Mm-hmm. Et quand elle m'a expliqué, j'ai dit stop, j'ai appelé l'association, j'ai été le chercher, on l'a mis chez le vétérinaire. Puis il a été en famille d'accueil, il a été soigné tout ça par l'association. Et puis au bout d'un moment, on m'a demandé si je pouvais, pour quelque temps, le garder, le temps. J'ai dit maintenant Angelo va rester ici. Hein, Angelo, tu vas bien?
Hein, mon garçon?
Et puis l'adorable, t'as réussi?
Là oui.
Ok. Elle pleure? Celle qui pleure?
Ouais, celle qui pleure. Ouais.
Après on a Oli, elle a été chez les pompiers. Oui, ma chérie.
Une chatte de Méricourt qu'on a retrouvée sur Avion.
Chez les pompiers ont appelé l'association. On m'a demandé de la garder le temps qu'elle part en famille d'accueil. Et puis là, elle est encore là. Mais bon, après, on s'attache.
Comment j'accueille les chats ici, ça dépend. Tout dépend comment ils sont arrivés. S'ils sont arrivés malades, comme par exemple Grisou, là, qui est devant vous. Lui, il est arrivé en rémission, quoi, en fait, parce que il était malade, il était soigné, il fallait un traitement d'une semaine et après, il allait être remis sur son site. C'est bien ça. Et il était dans cette cage-là. Comme il faisait froid, je l'ai mis dans cette cage-là et aux choses ici à la maison. Mais comme je ne connaissais pas ce chat, je ne savais pas comment il allait se faire avec les autres chats. Je l'ai mis en cage ici et il a eu son traitement et j'ai vu que c'était un adorable chat. Et j'ai dit, déjà, il ne va plus partir, il va rester ici. Et puis, son traitement, il a été changé et il va très bien. Bon, il a des petits soucis de santé comme tous les chats errants en général. Après, ben, les chats, y a des chats que je suis obligée de mettre en chatterie parce que ben ils sont pas sociables, surtout avec nous. Mmh. Comme celle que je ramène aujourd'hui chez le vétérinaire, vous avez vu, elle est pas sociable. Elle était en cage ici, on a essayé, rien à faire. Elle est mieux, elle est plus heureuse en chatterie. Alors du coup, voilà. Alors une chatterie, c'est en fait, normalement, ils appellent ça un poulailler. C'est mais nous on l'a fait un enclos et nous on l'a fait grillager bien sûr avec une porte et moi j'ai mis des dalles, j'ai bétonné, c'est pour ça que je suis toujours à la recherche de sable en cas où on ne sait jamais et de dalles si des dons quoi en fait pour bien que ça soit propre comme à la SPA comme ça un coup de jet d'eau c'est propre c'est nettoyé comme vous avez vu la petite chatterie c'est ce que j'ai réussi à faire mais c'est des dons qu'on m'a fait et pour ça que les autres ne sont pas encore terminés et on met des petites cabanes des litières et tous les jours ils sont nourris matin et au soir plus des croquettes à volonté toute la journée, plus l'eau. Et s'ils sont malades, eh ben, tous les jours que je suis là, je peux vérifier. Et puis s'il y a un souci, on est là. Sinon, ben, ils vivent mieux dehors qu'à l'intérieur. C'est des chats qui ne veulent pas, ou que je ne peux plus, de toute façon, c'est trop nombreux ici à la maison. Et puis après, ben, comme je vous ai dit, à mon petit cimetière, ben, quand c'est comme ça, ben, je les enterre à la maison. J'ai le droit, légalement, j'y ai le droit. Et puis voilà, ils sont chez eux jusqu'à la fin. Et après là, c'est Carambar. Alors lui, ça fait très longtemps que je l'ai maintenant, ça fait bien deux ans.
Ouais. Hein, il venait de la République, voilà. Et les gens voulaient lâcher des chiens dessus et tout. Donc pour pas qu'il soit maltraité, on l'a mis ici.
Bon, après, il y en a deux autres que c'est à moi qui sont du jardin. Mais qui sont très sauvages. Il y en a une qui vient de chez toi aussi, Chavionnet, Mimine. Pas Mimine, Pupus. La rousse, elle vient du parc des Glissoires, elle était renversée. Ouais. Et je l'ai gardée aussi.
Le bassin fracturé.
Voilà. Mais ils sont cachés.
C'est mon errant là-bas. Les dentons. Tout ça, c'est pour lui. Ouais. À la base, c'était pour un autre chat de l'association.
Cette chasserie-là, elle appartient au Chavionnet.
D'accord. Il y a un mot pupère.
Il a dit mon cours. Je veux dire que ça a été payé par Chavionnet.
Tout. Alors tu vois, Graziella, elle a mis des bâches de partout pour le froid. Tu rentres dedans,
allez-y.
Viens voir. Tu ne sens ni vent ni rien. Tu es complètement à l'abri de tout.
C'est pour ça que je fais ça.
Pas l'été, non. Pas de pluie. L'été, tu vois, tu y es découvert, sauf là. Ça, s'il pleut, ils sont protégés. Mais au moins là, il n'y a pas de vent, pas de froid, pas de voilà.
Parce ils sont il vraiment tombe, à l'abri. Ça tombe vite malade. Hein.
Ouais, c'est
on pense que des chats c'est solide, mais ça tombe vite malade.
Oh oui. En conclusion, j'aimerais rajouter que les fêtes arrivent bientôt, donc nous allons entendre J'offre un animal comme cadeau. Rappelons qu'un animal n'est pas un jouet, mais un être vivant. Une adoption doit être réfléchie, c'est-à-dire qu'il faut penser que lorsqu'on prend un chaton ou un chiot, on en a pour 15 ans, ce qui entraîne des frais, soins, nourriture ou soins vétérinaires. Sachez aussi qu'il faut identifier son animal, c'est une obligation, une loi est d'ailleurs faite pour ça. Et surtout, stériliser. Stériliser pour éviter qu'on retrouve justement tous ces bébés dans les rues. Puis, adopter en association ou refuge ou SPA plutôt que de prendre un particulier parce qu'en adoptant via ces structures, vous sauvez deux vies. En fait, vous sauvez le petit animal que vous adoptez et se libère une place pour un deuxième animal. Ce qui fait qu'on sort un deuxième animal de la rue. Donc, vous sauvez plus quand vous prenez via une association. Et en dernier, si vous ne voulez pas avoir tous ces frais, mais aimeriez aider un animal, il faudrait devenir famille d'accueil. Famille d'accueil, ça veut dire que vous êtes, vous acceptez d'avoir chez vous un animal en famille d'accueil. Vous lui donnez tout l'amour qu'il faut, les soins, sans avoir les frais derrière, vu que l'association les prend en charge. Et en fait, vous les avez jusqu'à leur jour d'adoption. Et quand ils partent, vous en avez d'autres. Donc, c'est ce qui fait que votre foyer a toujours un animal, mais vous n'avez pas les frais. Et surtout, ben, vous sauvez un animal et on manque cruellement de familles d'accueil. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce sujet aujourd'hui.
Ce reportage a été réalisé par Madame Gorée Corinne et Patricia Montuel dans le cadre du CCAS d'Avion. Merci à Madame Pascale Dewali, encadrement technique, Elsa de Micro Rebelle.
Notre reportage de fin de ce micro Rebelle Hebdo, un reportage réalisé à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'association ACAD. Cette semaine, ACAD, c'est l'association contre les compteurs communicants. On va donc y parler compteurs communicants, hein, Linky, Gaspard. On va également y parler 5G et on va évoquer la presse et les liens entre, par exemple, Enedis et BFM TV. Nous sommes avec Marie-André et Pierre du collectif ACAD, hein, anti-compteur communicant Artois Douaisis. Ce soir, c'est l'Assemblée Générale de l'association. Dans le rapport qui a été fait, rapport moral, rapport introductif, on a évoqué un nombre de villes assez impressionnant, de villes qui ont participé à des réunions publiques, un nombre impressionnant de réunions, un nombre impressionnant de participants. Marie-André, de quoi ça témoigne un petit peu ce nombre extrêmement fort, ce bilan très positif de l'association cette dernière année ?
Les gens se posaient beaucoup de questions, espéraient venir à nos réunions pour avoir une réponse à leurs questions. Beaucoup se demandaient si effectivement c'était obligatoire ou non. Donc nous, on leur a apporté les réponses, disons, d'ordre juridique. Et en général, les gens étaient plus ou moins partagés, avaient plus ou moins peur, mais pour une grande majorité, les gens étaient prêts à refuser donc ces compteurs.
Alors Pierre, est-ce que tu pourrais resituer les enjeux qu'il y a derrière cette question de compteurs communicants ? Donc on parle du Linky, l'électricité, de Gaspard, de l'eau. C'est quoi un petit peu les axes importants derrière tout ça ?
Il y a plusieurs axes, hein, je pense. Il y a d'abord tout l'enjeu économique et écologique, puisqu'on veut remplacer des compteurs qui fonctionnent par d'autres compteurs qui sont des compteurs capteurs, d'une part. Ça, c'est un premier point. Ensuite, le deuxième enjeu qui est important, c'est toute la problématique des ondes électromagnétiques, avec toutes les conséquences que ça peut avoir et que l'on voit d'ailleurs pour certaines personnes qui sont devenues électro-hypersensibles. Après, l'enjeu fondamental qui pour moi est certainement le plus dangereux pour l'avenir, c'est toute la perspective d'abord d'infantilisation des personnes, puisqu'on nous dépossède de notre capacité d'intervention. Et surtout, on nous met en avant toute cette société interconnectée et toute cette évolution de la société vers la 5G, vers l'Internet des objets, vers les objets intelligents. Et ça va aller vers, évidemment, les robots. C'est-à-dire que l'homme est en jeu, là, et c'est un enjeu important, c'est un enjeu de survie humaine qui me paraît le plus important.
Alors je vais me mettre dans un cas typique. Hein. Enedis veut installer un compteur Linky chez moi, ou Engie veut installer un compteur Gaspard. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que c'est obligatoire ? Quels sont mes droits ?
Alors, il y a plusieurs cas de figure. Déjà, tout dépend du type de contrat que vous avez, de la date du contrat. Donc vous ne pouvez pas changer les termes d'un contrat unilatéralement. Donc si votre contrat est ancien, Enedis n'a pas le droit de changer les termes du contrat. Maintenant, si votre contrat, c'est quoi ? C'est après 84 ? C'est 2014. Si c'est après février 2014, effectivement, là, le cas est un peu plus discutable, mais il y a effectivement des arguments juridiques qui démontrent que vous n'êtes pas obligé d'adhérer au nouveau contrat.
Je vais aborder un petit peu des choses qu'on a senties dans cette Assemblée Générale de l'association ACAD. Beaucoup d'initiatives, hein, des réunions publiques, des manifestations, on a empêché des compteurs d'être posés, on a aidé des personnes en justice. Alors justement, au-delà des initiatives un petit peu militantes, un petit peu politiques, il y a cette question des actions en justice. Aujourd'hui, ça recouvre quel type de préoccupation et où est-ce qu'on en est ?
Alors, la préoccupation principale, c'est d'abord la reconnaissance d'un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de ce compteur et surtout la problématique, parce qu'on l'a vu au niveau français, c'est que à partir du moment où on se base uniquement sur un certain nombre de pauses forcées, tout ça, on a peu de chances d'être entendu, parce que d'abord il faut le démontrer et d'autre part juridiquement c'est pas toujours facilement défendable, hein, même s'il y a des cas de vandalisme, hein, et surtout même dans des cas où par exemple les plaintes qui étaient déposées arrivaient à une issue sans suite. Mais surtout ce qui me paraît important, c'est de montrer un petit peu que ce produit, qui est un nouveau produit, qui est un produit dangereux, n'est pas homologable. C'est-à-dire qu'on l'a soi-disant homologué, mais dans la réalité, il est plein d'un certain nombre de problèmes. Et ce sont ces problèmes-là qu'il faudra qu'on mette en avant et pour pouvoir justement aller jusqu'au bout du processus. Et après, je pense que ce n'est pas seulement l'aspect juridique qu'il faut mettre en avant. Et c'est là notre bataille, c'est de lier l'aspect juridique avec l'aspect action, actif, c'est-à-dire montrer que derrière nous, il y a un certain nombre de gens qui ne supportent pas et qui soutiennent non seulement les actions juridiques, mais toutes sortes d'actions.
Alors Marie-Andrée, lors de cette Assemblée Générale, on a évoqué les adhésions au collectif ACAD. Hein, on en est à plusieurs centaines d'adhésions après un an d'existence. ACAD semble donc en pleine santé. Qu'est-ce qu'il en est? Puis quelles sont les possibilités de renforcement? Comment est-ce qu'on peut rejoindre le collectif? Comment est-ce qu'on peut adhérer? Comment est-ce qu'on peut soutenir?
Alors il existe un site ACAD qui est très bien tenu d'ailleurs par Pierre qui produit quand même pas mal d'informations. Donc vous pouvez vous rapprocher de ce site et vous pouvez donc remplir un bulletin d'adhésion. L'adhésion est à 5 €, mais de nombreux adhérents nous donnent davantage pour pouvoir soutenir nos actions. Voilà. Moi je voulais dire aussi, outre les problèmes de santé publique qu'a évoqué Pierre, il y a aussi ce qu'on appelle le big data. À savoir qu'avec ces compteurs connectés, Enedis va donc avoir des millions et des millions d'informations ciblées. Il a d'ailleurs été épinglé, Enedis a été épinglé par la CNIL. Bon, Enedis a promis de demander l'autorisation des gens, mais on sait très bien que ça va se passer autrement, puisque déjà actuellement, Enedis fait déjà traiter ses données par une société américaine, et qu'on sache, on n'a jamais vu cette société américaine ni Enedis demander l'avis des usagers. Donc pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Alors moi, ce qui me fait peur aussi, c'est le piratage des données. Il y a eu suffisamment de congrès sur la sécurité informatique, qui réunissait des experts et des hackers, tous étaient unanimes pour dire que le système Linky était un système extrêmement dangereux car pouvant être piraté très facilement.
Alors justement, on a évoqué la santé, tu viens d'évoquer le Big Data. Lors de cette Assemblée Générale, ACAD se propose d'investir un nouveau cheval de bataille, c'est la 5G. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette thématique ?
Comme d'habitude, c'est du toujours plus, c'est-à-dire toujours plus vite. Donc il faudra que les ordinateurs seront capables de télécharger des vidéos 10 fois plus vite qu'avant, etc. C'est la course habituelle à la vitesse, la course à la croissance démesurée qui va nous faire perdre notre humanité surtout. Alors ça se concrétise par quoi? C'est-à-dire que pour mettre cette 5G en place, il faudra d'une part, à certains endroits, supprimer des arbres parce que les ondes sont tellement courtes qu'ils ne traversent pas les arbres. Il faudra ensuite qu'il y ait des antennes tous les 100 mètres. Et évidemment, ça sera avec toute une installation de mise en orbite de 20 000 satellites. Et puis surtout, toute la problématique, c'est évidemment la récupération de données et également les problèmes de santé qui seront démultipliés parce que ce sont des ondes très courtes, comme j'ai dit, et qui va occasionner des cancers et tout ça. C'est pour ça qu'on a l'intention de faire venir une personne compétente dans ce domaine, et on va organiser un certain nombre de conférences sur cette thématique, parce que c'est un enjeu crucial, et actuellement les gens ont l'impression qu'il faut passer par la 5G, parce que évidemment ça va servir pour les entreprises, les multinationales, puisque ça va obliger les clients, entre guillemets, à racheter du matériel, c'est-à-dire des smartphones qui iront avec la 5G, etc. Donc c'est toujours un commerce, mais c'est surtout un commerce dangereux et suicidaire pour l'humanité.
Ah, merci Pierre. Une toute dernière question à Micro Rebelle. On est très sensible à la question des médias, de l'information, de l'indépendance des médias. Cette Assemblée Générale a présenté un cas typique de relation entre notamment BFM TV et Enedis. Est-ce que tu peux nous resituer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et puis finalement l'analyse que porte ACAD là-dessus ?
C'est pas difficile, c'est-à-dire qu'il faut penser que Enedis a toujours besoin de soutien à l'extérieur. Donc il s'appuie sur les médias, d'une façon générale. On a des exemples très multiples de médias qui vont dans le sens d'Enedis, et même la Voix du Nord, à certains moments, dans la région lilloise, était carrément à genoux devant Enedis. Alors là, cette fois-ci, ce n'est pas la Voix du Nord, ce n'est pas certains médias tels que France Inter, tels que FR3, etc., même certains journaux qui ont repris correctement un certain nombre de problématiques qu'on a soulevées. Là, c'est BFM TV, comme par hasard, façon à instiller le doute, parce que c'est leur technique, c'est un peu comme pour l'amiante. Hein. L'amiante, c'était un super produit. À partir du moment où on s'est rendu compte qu'il y avait des tas de problèmes avec l'amiante, ah bah oui, mais les analyses que vous avez faites n'étaient pas très bonnes, etc. Donc on est toujours dans ce système de contestation soi-disant scientifique, et là, on est exactement dans la même problématique. C'est-à-dire qu'on fait appel à des structures soi-disant indépendantes pour pouvoir contredire ce qui a été dit par la presse en général, façon à ce que finalement la justice tienne compte de ce doute pour pouvoir aller dans le sens d'Enedis. Et ça, c'est là-dessus on a contre-attaqué pour montrer que ce qu'on a dit, c'est ça s'appuie sur des données qui sont vérifiées d'ailleurs par le médiateur de l'EDF. Et d'autre part, on n'est pas dupe de leur façon de faire. Et c'est pour ça qu'on est, pour l'instant, on reste serein, ce qui ne veut pas dire que dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire le jugement qui sera donné le 22 novembre, ça ne veut pas dire qu'on va gagner. On espère gagner, mais comme on a déjà été très souvent échaudé en France, on attend, on verra en tout cas. On contre-attaquera si on n'a pas la satisfaction.
On peut peut-être rappeler comment ça s'est passé. En fait, c'est suite au procès de Mme Morel pour surfacturation, BFM TV a mis en doute...
La problématique qui était soulevée par l'avocat. C'est-à-dire le fait que ce n'était pas possible qu'elle ne payait que ça. Donc, on a démontré que d'une part, non seulement ça n'a pas été contesté par EDF pendant plusieurs années, et si véritablement il y avait une contestation, il n'avait qu'à faire le travail avant, parce que si le compteur ne fonctionne pas, ce n'est pas dû à Mme Morel qui aurait trafiqué le compteur. Elle n'est pas capable de le faire, comme moi je ne serais pas capable. Mais la mise en doute de ça, puis ensuite, ce qu'on a aussi montré, c'est qu'à un moment donné, le compteur Linky, lui, compte des kilowattheures de façon assez extraordinaire durant l'année 2017. Et comme par hasard, en 2018, quand on commence à contester, là, ça devient plus raisonnable. Ça veut dire concrètement que Enedis a tous les moyens de faire ce qu'il veut avec tous les compteurs. C'est-à-dire à distance, il peut trafiquer d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce qui ne va pas se gêner. On a des exemples de personnes qui ont râlé aussi parce qu'il y avait surfacturation. Et quand on est venu, comme par hasard, il y a une facturation normale. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient fait ce qu'ils avaient voulu. C'est en ce sens-là qu'on est dépossédé de notre pouvoir, à la fois de contestation et d'intervention.
Ce micro-rebelle hebdo se termine. Merci de nous avoir écoutés sur microrebelle.fr, sur Radio PFM 99.9 ou sur Radio Plus 104.3. Bonne semaine à toutes et à tous. À la semaine prochaine. Bye bye.
So.